Bienvenue dans Histoire de famille, un podcast qui met en lumière ce qu'on s'évertue souvent à cacher, les histoires de famille. Ici racontées par ceux qui les ont vécues ou qui les vivent encore. Voici une nouvelle histoire de famille, authentique et passionnante. Bonne écoute. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Alors, l'épisode est déjà un peu particulier parce que je dis bonjour Thibaut, mais aujourd'hui j'ai deux invités et on expliquera pourquoi. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode du podcast.
Merci de m'inviter.
On va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Simplement, avant, il y a un petit rituel qui est d'expliquer comment on s'est connus et comment on est rentrés en contact.
Okay.
Donc toi, tu es un très bon ami de Romain qui a participé à un épisode du podcast.
Exactement, en fait, je connais Romain depuis plus de 10 ans. On s'est connus en école de commerce lors d'un master.
Et alors moi, il m'a parlé de toi assez rapidement en me disant, écoute, si tu veux une histoire incroyable et surtout une personnalité solaire et inspirante, j'ai la personne qu'il te faut.
Voilà, la barre est haute alors.
Du coup, je propose de ne plus perdre de temps et de rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu peux me présenter ta famille ?
Ouais, absolument. Eh bien écoute, tu l'as dit, je m'appelle Thibaut, j'ai 35 ans. Je suis né dans le Berry, à Bourges. J'ai grandi donc à Bourges et à Orléans. Et maintenant, depuis 12 ans, je travaille à Paris dans le domaine du conseil. Et en parallèle de ce parcours-là, j'ai cofondé, je dirige toujours des associations.
Alors, ces associations, elles sont pas mal centrées autour d'une particularité.
Tout à fait, autour de la question du handicap, de manière générale, et en particulier de la malvoyance, le handicap visuel.
Pourquoi as-tu choisi cet engagement en particulier ?
En fait, ça remonte à quand j'étais en études supérieures, en école, étant moi-même malvoyant. Assez naturellement, je me suis impliqué dans différentes associations. L'une d'entre elles était une association de sensibilisation au handicap. Et j'ai trouvé que le sujet était vraiment intéressant parce qu'il y avait beaucoup à faire en la matière. Ça faisait sens pour moi de m'impliquer dans ces actions-là, quoi. Ça a été le point de départ et par la suite, j'ai créé des associations et j'ai intégré des conseils d'administration d'autres structures comme bénévoles.
Donc on y reviendra un peu plus tard. En effet, si on est deux aujourd'hui, c'est parce que c'est ton chien.
Voilà, tout à
alors,
fait.
Alors, comment on appelle ça? Un chien aveugle?
Chien guide.
Chien guide.
Chien guide d'aveugle.
Todd, ouais. Qui est, alors pour le décrire, un magnifique labrador couché sur nos pieds actuellement.
C'est ça, sous la table, bien sagement installé. Et donc, c'est un chien guide qui m'accompagne partout. Elle est toute nouvelle puisqu'elle m'a rejoint il y a 2 mois. C'est une petite chienne de même pas 2 ans. Elle a 21 mois. Et donc, elle m'accompagne partout. C'est la particularité du chien guide. C'est une chance. Ils ont un statut qui leur permet d'accéder avec leur maître, donc en l'occurrence avec moi.
Ah oui, dans tous les commerces. Okay.
Les restaurants, l'hôtel, dans l'avion, en cabine. Elle a eu d'ailleurs son baptême de l'air là, à Noël. Elle a pris l'avion et elle a été très sage pour son premier vol. Et puis le train, le taxi, partout.
Donc elle a eu une formation d'une dizaine de mois, c'est ça?
Exactement, par des professionnels. C'était vraiment des écoles de chiens guides, avec des éducateurs qui sont spécialement formés, qui éduquent le chien. On ne dit pas dresser, on dit éduquer, pour qu'ensuite il puisse être chien guide.
Oh, elle a l'air très bien dans sa peau. Hein.
Très calme.
Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de revenir un peu à l'origine de...
Oui.
Alors, est-ce qu'on parle de handicap?
Moi, je n'ai pas de problème avec le terme de handicap. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je ne trouve pas que ce soit négatif. J'ai plus un problème quand on dit une personne porteuse de handicap ou une personne souffrant de handicap. Parce que tout de suite, c'est péjoratif. T'as l'idée que c'est une souffrance ou un truc qui est lourd à porter. Donc, ok, moi je suis handicapé, j'ai pas de problème avec ça, c'est pas un gros mot, j'assume complètement. Ou on peut me dire une personne malvoyante, une personne aveugle, puisque je vois que la lumière et les couleurs. Donc voilà, si quelqu'un dit que je suis non-voyant, que je suis aveugle, bah, c'est la réalité. Tout état de cause, tu vois, je ne reconnais pas quelqu'un sur son visage, je ne peux pas lire un livre ou lire le journal, donc oui, je suis handicapé, il n'y a pas de tabou, j'accepte cette situation et je mets le plus possible en place des choses pour compenser et vivre le plus normalement possible.
C'est ce que j'allais dire, moi c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'avant d'enregistrer le podcast, on a souvent un premier échange, donc là on l'avait eu dans la société dans laquelle tu travaillais pendant un temps de pause. Donc déjà, tu es dans un grand groupe à un poste à responsabilité et à quasiment aucun moment, j'ai eu la sensation que, en fait, tu avais en tête d'avoir ce handicap. Enfin, c'était presque moi qui te le rappelais, en fait.
Et effectivement, et ça me fait plaisir, en fait, quand mes collègues ou toi ou les personnes que je croise l'oublient, parce que finalement, ça veut dire que la compensation est bonne et finalement, on passe au second plan cette situation qui existe et qu'on ne peut pas nier, que je ne nie pas, mais qui n'est pas tout le temps au premier plan et c'est ça le côté positif en fait.
Pour, entre guillemets, le gérer aussi bien, c'est que c'est un handicap que tu as eu très jeune, à la naissance.
Oui, exactement. Il faut bien faire la distinction entre les personnes qui naissent en situation de handicap et dont le handicap n'est pas évolutif, ce qui est mon cas. Je suis né quasiment non-voyant, alors qu'une personne qui va perdre un sens ou perdre la fonctionnalité d'une jambe, d'un bras, voilà, au cours de sa vie, forcément, c'est pas pareil. Déjà en termes fonctionnels, il y a une rééducation, une nouvelle habitude, et puis en termes d'adaptation psychologique finalement. C'est beaucoup plus dur d'accepter. Dans mon entourage, j'ai des amis qui conduisaient, qui avaient des vies tout à fait ordinaires, si je puis dire. Suite à telle ou telle problématique, sont devenus non-voyants. Bon, voilà, il y a une phase d'adaptation qui est forcément plus longue, plus douloureuse, ce qui n'est pas mon cas, puisque je suis né non-voyant.
Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ces premières années de vie ?
Oui, oui, alors moi j'ai grandi à la campagne, j'ai grandi dans une ferme, donc mon souvenir des premières années, c'est vraiment la vie à la campagne, avec les animaux. Je ne l'ai pas précisé, mais ça faisait partie de ta question tout à l'heure, j'ai une grande sœur et un petit frère, on est trois dans la famille, je suis au milieu, on a peu d'écart. Ma sœur, enfin, 1 an et demi plus que moi, et mon petit frère, 3 ans de moins. On est les trois en moins de 5 ans. Donc j'ai beaucoup de souvenirs, étant petit, de jouer avec mon frère, ma sœur, à l'extérieur, tu sais, vraiment en plein air. J'ai beaucoup de souvenirs d'aider mon père aussi, quand on pouvait, avec les animaux, c'est des vaches, ou faire des cabanes, tu sais, à l'extérieur, des courses avec les vélos, etc. Enfin bon, bref, plein de choses de campagne. Ouais. Et effectivement, j'étais déjà malvoyant, puisque je suis né comme ça. Donc voilà, j'ai des souvenirs. Je voyais un tout petit peu, mais ça me suffisait pour faire du vélo. C'était pas toujours safe. Sur des routes de campagne, tu sais.
Normalement, t'es un peu tout seul.
Ouais, t'as une voiture tous les 20 minutes. Puis bon, quand il y a une voiture qui arrivait, je me rappelle, je me mettais dans l'herbe, tu sais, pour être tranquille et voilà.
Mais tu cherchais la sensation de l'herbe.
Oui, oui, exactement, exactement. Puis je distinguais un petit peu, tu vois. Alors, je voyais pas tous les détails de la route. Donc parfois, je roulais dans des nids de poules, des trucs comme ça. Mais c'était OK. Peut-être que je me faisais plus de bobos qu'un enfant qui aurait bien vu. Et encore, je sais pas. J'ai pas vraiment de souvenirs de grosses gamelles à vélo ou autre. J'essayais vraiment de faire tout comme les autres, jusqu'au moment où tu te rends bien compte qu'il y a des choses que tu pourras jamais faire comme les autres. Quand tu as 16-17 ans, bah, j'aurais pu normalement faire la conduite accompagnée. Bon, bah, il n'y en a pas question. Je voyais très peu. Donc, j'ai fait autre chose.
Donc, si tu es né comme cela, est-ce qu'on s'en est rendu compte rapidement, avant la naissance ?
Pas avant. Non, non. Ce que je sais, pour être franc, c'est pas un sujet qu'on aborde souvent avec mes parents, voire même jamais. On s'en est aperçu quelques jours après la naissance.
Ok.
Voilà. De ce fait, j'ai été opéré rapidement quelques semaines après la naissance, à nombreuses reprises. Voilà.
Tu m'avais parlé de 9 fois. Donc tout bébé, t'avais déjà beaucoup voyagé.
Ouais. Avant 3 ans, j'avais déjà été opéré 9 fois. Ouais.
Ok. Et c'est quoi comme type de souci que tu as ?
Alors, ça s'appelle un glaucome. Okay. Donc c'est une maladie de l'œil. Le liquide qui est dans l'œil s'écoule mal. Okay. Et donc il y a trop de pression dans l'œil, trop de tension oculaire précisément. Et donc ça vient abîmer le nerf optique. La pression vient écraser, comprimer le nerf optique. Et donc, ça conduit à la cécité, quoi.
Donc, tu l'as sur chaque œil ?
Des deux côtés.
Est-ce que voilà. C'est quelque chose de rare, de...
Non. Malheureusement, le glaucome... Enfin, je dis malheureusement parce que c'est pas une maladie qu'on arrive à soigner facilement. Alors, c'est peut-être pas aussi répandu que la cataracte ou que ces maladies très courantes, finalement, et qu'on soigne très bien. Non, la cataracte, c'est quelque chose de très banal. Le glaucome, ça reste une maladie difficile à soigner. Je ne saurais pas te dire combien de personnes sont concernées en France, mais c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes.
Donc ça, c'est quelque chose qui est assez bien diagnostiqué, on sait de quoi on parle.
Alors, je pense qu'on diagnostique encore mieux aujourd'hui, en 2024, qu'en 88, quand je suis né. Non seulement on diagnostique mieux, mais on soigne mieux. Il n'y a pas longtemps, ça m'avait frappé, un de mes ophtalmos, il y a peut-être 10 ans, m'avait dit que les bébés qui naissent avec des glaucomes congénitaux...
Aujourd'hui, donc.
Aujourd'hui, ou on va dire depuis 2010-2015, on arrive à les prendre en charge beaucoup, beaucoup mieux. Mieux les diagnostiquer, mieux les soigner que 30 ans auparavant. Ce qui semble assez logique.
Et assez heureux, quoi.
Bien sûr.
Ils ont plus de chances de voir, ou ils voient mieux.
Alors, je pense qu'ils voient mieux parce que les opérations sont mieux maîtrisées. On utilise, par exemple, le laser. En 88, il n'y avait pas ces opérations au laser, okay. Ça n'existait pas. Donc on utilise des outils plus modernes, des techniques plus modernes. On a mieux appris aussi sur la médecine de l'œil. Et donc, ils ont beaucoup plus de chances de voir. De là à dire qu'ils pourront avoir une vie 100% ordinaire, non, conduire, je ne sais pas. Mais ils seront moins lourdement handicapés.
Est-ce que c'est une maladie génétique ? Est-ce que c'est lié à un facteur extérieur ?
Alors, ça peut être les deux. Il se trouve que dans ma famille, il y a eu une étude génétique. On remonte pour voir s'il n'y a pas des antécédents génétiques. On n'en a pas trouvé. Donc, par défaut, il s'agit sans doute de la seconde possibilité, donc d'une infection virale pendant la grossesse qui aurait affecté le fœtus.
Donc ça, c'est quelque chose qui doit être très difficile à apprendre pour la famille, les parents.
Sans doute. Sans doute, bah, c'est vraiment la surprise. Autant quand on a des antécédents génétiques et qu'on en a la conscience.
C'est la loterie.
Un risque, c'est une loterie, mais on en a conscience. Autant là, non, c'est la surprise. Je ne me rends pas bien compte, mais je suppose que c'est forcément pas une bonne nouvelle. Et tout de suite, bah, on n'a pas de solution parce que les cas sont quand même pas très fréquents. Enfin, voilà, ça pose vraiment des questions tout de suite.
D'environnement.
Et puis même d'environnement, ouais. De qu'est-ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire plus tard? Parce que c'est dur de s'identifier aussi. Dans ma famille, personne n'est non-voyant. Mes frères et sœurs voient... tout à fait bien, etc. Donc, tu vois, c'est pas comme si dans la famille il y avait déjà des malvoyants, etc. Donc, on arrive vraiment dans une situation d'inconnu pour mes parents, mes grands-parents. Mon grand-père, qui était médecin, s'est beaucoup impliqué dans le suivi, la discussion avec les médecins, tu vois, les opérations,
en fait.
L'accompagnement, parce que tu vois, 9 opérations en moins de 3 ans, ça veut dire beaucoup de consultations en amont. Enfin, tu vois, on n'opère jamais comme ça, il y a plein de consultations en amont, de diagnostics, prendre plusieurs avis auprès de différents spécialistes. On est assez rapidement venu à Paris aussi. Bourges-Paris, c'est pas très très loin. Mais ouais, voilà, c'est pas une naissance ordinaire.
Est-ce que toi, tu as l'impression que dans ta famille, en tout cas, ça a été plutôt bien accepté, plutôt bien, j'allais dire, vu, c'est très maladroit?
Si. Ben, moi, je crois que je comprends ta question. Je pense que oui, parce que justement, on m'a pas mis à part. J'ai vraiment pas eu le sentiment que mes parents avaient honte ou avait souhaité me préserver. Tu vois, c'est un peu le risque des parents un peu trop couveurs. Ils veulent préserver, mais en fait, ça n'aide pas l'enfant.
C'est un minimum d'ouverture et de confiance dans la vie quand même, de se dire, bon, on lui fait confiance à lui, mais en fait, il faut faire confiance aussi un peu à l'environnement, aux chances qu'il aura ou pas. Il faut qu'il y ait un milieu qui soit plutôt favorable. Toi, tu es né dans quel type de milieu ?
Alors, ma maman était infirmière, donc déjà dans le domaine médical, et son papa était donc médecin, comme je le disais, mon grand-père maternel. Mon père était donc agriculteur, il est toujours d'ailleurs au même endroit. Et effectivement, je pense que mes parents se sont rapidement documentés, renseignés au maximum, tant au niveau médical qu'au niveau du reste. Mes parents se sont rapprochés d'associations d'autres parents d'enfants aveugles pour partager des expériences, essayer de trouver aussi les écoles adaptées. Donc ils étaient loin d'être résignés ou d'être sans solution. Ils ont vraiment tout fait pour chercher des solutions.
Ils ne sont pas laissés du tout abattre,
non.
En fait. T'as visiblement un tempérament assez positif, je pense. Mais il y a aussi certainement un terrain familial à foncer, peut-être.
Ouais, sans doute. Ou en tout cas, à chercher des solutions et puis à voir le verre à moitié plein. En tout cas, c'est mon caractère et je pense que ma situation de handicap n'est pas étrangère à ça. C'est-à-dire, quand on a un sens en moins, qu'on a un handicap quel qu'il soit, déjà, il faut l'accepter. Ensuite, le compenser du mieux qu'on peut. Et puis, toujours voir le verre à moitié plein pour avancer, pour être positif. Et surtout, renvoyer une image positive quand même auprès des autres. Parce que personne n'a envie de se rapprocher ou de faire des activités quelles qu'elles soient ou devenir ami avec quelqu'un de trop, tu vois ce que je veux dire, un peu aigri, négatif, etc. Moi, je dis souvent, je pense que si je n'avais pas eu cette situation sur handicap, j'aurais probablement une vie complètement différente. Un caractère déjà différent, je pense que ça a forgé mon caractère. Et même dans mon choix d'études, mon choix, ça aurait été aussi, je pense, différent.
On t'a poussé à faire des études ?
Non, pas spécialement. J'avais que ça à faire. Si tu veux, comme je jouais pas au foot avec les autres, etc., bah, je faisais mes cours, je travaillais à l'école. Et je pense que j'avais compris assez tôt que quand on voit pas, faire des études, c'est quand même une bonne solution pour avoir une vie active et un boulot, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers, et plutôt les métiers un peu moins qualifiés, bah, qui sont de fait pas accessibles. Moi, j'aurais beaucoup aimé faire un métier manuel ou un métier autre, mais bah, de fait, c'était pas possible. Donc,
tu m'avais dit, dans l'échange qu'on avait eu au préalable, en fait, j'avais deux options, soit me considérer vraiment comme étant handicapé et du coup vivre des aides qui sont prévues, soit vraiment me battre et en fait faire plus que la moyenne.
Oui, c'est vrai que ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Heureusement, on est en France et il y a des aides, des allocations pour les personnes handicapées. C'est une très très bonne chose, je ne remets pas du tout ça en cause. Mais ça veut aussi dire que, évidemment, quand on commence à travailler, on perd ses aides, ce qui est normal aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut un travail bien rémunéré pour que ce soit intéressant de travailler, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. À l'époque, j'étais pas au courant de tout ça quand j'ai fait mes choix d'études, hein, ça c'est venu après. Mais a priori, j'avais quand même le sentiment que faire des études, d'une part, ça t'ouvrait un peu plus de portes en termes d'options. Comme beaucoup de jeunes, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai fait un bac scientifique. Après, je savais pas quoi faire, donc j'ai fait une école de commerce. Toujours un peu le parcours classique pour te laisser un maximum de portes ouvertes. Mais voilà, j'avais assez rapidement compris et j'avais échangé avec un autre déficient visuel, parce que comme je le disais, dans ma famille, il n'y a pas de non-voyant ou de malvoyant. Et par contact d'un cousin de mon père, on est entré en lien avec un non-voyant que j'ai rencontré quand j'avais moi 15 ans. Et lui, il avait un parcours un peu similaire au mien, mais avec 30 ans de plus. Donc il a pu être un rôle modèle, tu vois, pour moi. Et j'ai compris en parlant avec cette personne qui a travaillé dans une entreprise informatique, qui a eu une très très belle carrière, etc., bien qu'étant non-voyant. Et j'ai compris en parlant avec lui les possibilités qu'il y avait en termes d'outils techniques pour compenser, la manière décomplexée qu'il avait d'aborder son handicap, de demander de l'aide, d'être vraiment efficace dans son travail. Et c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé.
Il t'a inspiré.
Il m'a inspiré, il m'a aidé à me projeter et à me convaincre aussi du fait qu'il était tout à fait possible d'envisager une large, tu vois, palette de métiers et que bah, la première étape, c'était de faire des études et de ne pas s'auto-censurer sur tout ça. Pas se dire, mais bon, comme tu as compris, c'était pas trop mon caractère, pas se dire non, ça, c'est pas pour moi, ça va être trop dur, je le sens pas, etc. Puisque j'ai toujours voulu faire tout comme tout le monde.
Et est-ce que tu as fait plus d'études ou à peu près tant que tes frères et sœurs?
Non, j'en ai fait plus. Mais ça, je ne sais pas si c'est du fait du handicap. On peut le penser, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, ma grande sœur est éducatrice spécialisée. Mon petit frère bah, travaille à la ferme avec mon père.
C'est presque une histoire de vie hein, qu'on évoque. Pour repartir plus sur l'histoire de famille, toi, tu as donc un nom à particule. Donc, tu viens d'une famille peut-être qui est plus sensible à une image, du moins à un réseau, peut-être au candidat-on en fait. Est-ce que ça a eu une influence sur toi? Est-ce que tu as senti que bah, ta particularité avait changé quelque chose à cette famille?
C'est une très bonne question. Je pense du fait d'être parti assez tôt de la maison pour aller vers les écoles adaptées. Par exemple, mes frères et sœurs ont fait leurs études dans le privé, sont restés à Bourges. J'aurais été dans la même situation si je n'avais pas eu de handicap. Du fait de ma situation, je suis parti plus loin, dans d'autres villes. Et de fait, je pense que ça m'a un petit peu éloigné de ces aspects plus héritage, culture, enfin valeurs familiales, transmission. Voilà, exactement. Ce que je te dis, pas forcément une valeur absolue parce que ma sœur, qui n'est pas du tout en situation de handicap, se retrouve pas forcément tout le temps non plus dans ces valeurs-là, ce qui est le cas de mon frère. Mon frère, lui, par contre, il est beaucoup plus attaché aux racines, à la généalogie, aux transmissions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de personnel. Est-ce que le fait que je sois en situation de handicap a joué par rapport à ces valeurs? Je sais pas. Moi, en tout cas, je respecte ces valeurs, j'ai bien conscience que c'est pas neutre, tu vois, d'avoir ce type d'héritage familial, mais je suis pas non plus très attaché de cet aspect. Sans le renier, je le cultive pas.
Mais ça n'a pas été un problème d'être le petit-fils du médecin, monsieur de, qui lui était différent. En fait, on avait l'image un peu parfaite, un peu lisse d'une famille, et est-ce que...
Peut-être. Et de ce fait, s'extirper du milieu, bah, c'est une manière de régler la question. Tu vois. En quittant la ville, le milieu, le petit cercle, et en fait, je ne dis pas que je l'ai quitté, c'est que je n'ai jamais intégré. Je n'ai jamais été à l'école, au collège, avec les gens du coin, les amis de mes parents, je les connais très peu. Très rapidement, je suis allé dans un milieu neutre, finalement, à l'école publique, avec une prise en charge spécifique à ma situation, j'ai appris le braille, j'ai appris tout ça. Et donc, je suis sorti de ce milieu-là. Je n'ai pas eu une vie sociale jusqu'à 18-20 ans très riche. J'étais vraiment très, très scolaire.
Tu vois, là, tu l'as compensé un petit peu.
Je l'ai compensé par la suite, mais peut-être qu'il y a eu du qu'en dira-t-on, mais ça, j'avoue que je...
C'est
pas remonté à mes oreilles. Et puis, si tu veux, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu perçois pas forcément quand tu vois mal. Ça peut être des regards, des gestes, des choses. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, je suis pas vexé. Ce qui est moins bien, c'est que tu passes à côté quand même de pas mal d'informations. Mais ça, c'est vrai pour cette situation, c'est vrai dans d'autres. Il y a beaucoup, beaucoup de visuels aujourd'hui, communication non verbale, etc. Mais je saurais pas trop te dire. En tout cas, rien n'est jamais remonté à mes oreilles, et puis je me doute que s'il y avait eu des choses, mes parents, ça leur a probablement pas fait grand plaisir, et puis je pense qu'ils l'ont gardé pour eux.
Toi, t'es l'enfant du milieu, donc ouais. La place pas forcément la plus valorisée. Comment tes frères et sœurs, eux, ils ont réagi, puisqu'on a parlé donc des grands-parents, l'entourage, ouais. Mais les frères et sœurs,
écoute, je pense
est-ce qu'ils t'ont chahuté pareil que...
Je sais pas, je pense que c'est pas facile pour les frères et sœurs d'avoir un frère ou une sœur handicapée. Parce que, même si je disais plutôt que mes parents ont souhaité m'élever comme mes frères et sœurs, il y a quand même des moments où tu peux pas tout faire comme les autres. Et donc, il peut y avoir, pas des traitements de faveur, mais ça peut être perçu comme tel. Donc, assez rapidement, ça peut créer un peu des jalousies, ou le côté un peu, l'enfant handicapé, c'est un peu le chouchou, ou on lui pardonne tout parce qu'il est handicapé. Bon, assez vite, ça peut créer des tensions, sur le moment, ou même plus tard. Moi, je pense que ça affecte vraiment les frères et sœurs, ou de manière visible ou pas sur le moment. Ma sœur, par exemple, elle a fait le choix d'une carrière dans le domaine social. Je crois que c'est elle, une fois, qui m'a dit que le fait d'avoir eu un petit frère comme moi, ça l'avait incité, enfin, en tout cas, ça avait contribué à son choix d'études.
C'est pas anodin.
Je pense que c'est pas anodin. Tout à l'heure, je te disais que quand on voit pas bien, on se rend pas compte des réactions des autres, des regards, ouais. Des gestes un peu. Ben, eux, les frères et sœurs, ils le voient. Quand on est ensemble au restaurant ou je ne sais quoi, et qu'ils voient bien que quelqu'un me regarde de travers parce que j'ai des grosses lunettes ou parce que j'ai pas vu, je me suis pris un truc là, Moi, je veux pas forcément voir les gens qui rigolent sur les côtés ou qui ont des regards bizarres. Eux, ils vont le voir. Et quand on est petit, c'est pas facile, tu vois. Ouais, je pense que c'est pas évident à gérer au quotidien, quoi.
Mais
c'est
eux, ils sont rentrés dans le jeu un peu des parents et de toi, c'est-à-dire,
oui.
Ok, on le traite le plus normalement possible, en fait.
Complètement.
Est-ce que t'as des souvenirs de ça, là, où c'était un peu pas de pitié
Bah, si tu veux, comme tous les enfants, avec mon frère, on se battait, hein, tu vois. Comme deux garçons qui ont 3 ans d'écart, j'ai des souvenirs vraiment pas tendres, dans les deux sens. Alors, je pense que c'était plus moi qui étais pas tendre avec lui, tu vois. Pour le coup, il devait un peu faire attention. Bon, il était plus petit aussi, hein. On se faisait pas de cadeaux, c'était comme n'importe quelle fratrie.
Tu voyais où tu frappais, du coup, quand vous vous
battiez ?
Non,
alors justement, mon père disait « Ouais, mais Thibaut, il tape n'importe où, il voit pas ce qu'il fait. » Tu vois, du coup, c'était pas très rassurant. Mais de ce point de vue-là, ouais, pas de différence, quoi. Il n'y avait pas de mise à l'écart du fait de la situation spécifique. Et ça, je pense que ça peut sembler un peu anodin, mais ça ne l'est pas du tout. Parce qu'en fait, en étant, dès le début, dans la famille, de la part des parents, de la part des frères et sœurs, traité de la manière la plus ordinaire possible, et ben ça te forge aussi pour la suite. Et du coup, c'est après ce que j'ai essayé de retrouver dans le domaine scolaire, universitaire,
pro, ouais.
Le plus possible, et même pro aujourd'hui. Voilà, je veux pas qu'on définisse d'abord par mon handicap, je veux pas de traitement de faveur parce que je suis handicapé. Tu vois, quand je fais un entretien d'embauche, un entretien pour vendre un projet, évidemment, on peut parler de la situation de handicap, mais en fait, on parle pas de mon handicap, on parle de mes besoins spécifiques. C'est quoi mes besoins concrets du fait de mon handicap, pour travailler, pour étudier, mais le fait de parler de mon handicap en tant que tel, non, ça n'a pas d'importance en tant que tel, un collaborateur comme un autre, un entrepreneur comme un autre. Il ne faut pas que le handicap prenne...
Il n'y a pas d'étiquette, quoi.
Non, et le handicap ne doit pas prendre trop de place non plus. On ne se définit pas par rapport à son handicap.
En fait, toi, tu as réussi à avoir une vie, enfin j'ai envie de dire, assez normale. Là, tu vis avec quelqu'un, tu vis à Paris, dans une ville immense. Bah du coup, est-ce qu'une ville, c'est plus dangereux que la campagne?
Non, alors, je ne sais pas ce que tu entends par dangereux.
Pour quelqu'un qui ne verrait pas, pour traverser, bien... il y a des dangers de tous les côtés, des vélib.
Alors non, paradoxalement, la ville est plus confortable et plus accessible que la campagne. Alors, je parle pour la malvoyance. Par exemple, une personne qui est en fauteuil roulant, finalement, quand elle peut conduire, elle est beaucoup plus à l'aise à avoir des grands parkings, des grands espaces pour se garer, à plat, tu vois, plutôt que des villes compliquées avec des centres-villes, avec des pavés, avec des marches partout. Pour la malvoyance, les villes, notamment les villes denses, comme Paris, avec un tissu de transport resserré, ça, c'est top. C'est top parce que ça veut dire que tu peux facilement être à pied, tu peux facilement avoir des transports, avoir des taxis, et être hyper mobile, hyper libre. Si t'es perdu à un moment donné, tu peux demander ton chemin. Il y a quand même du monde partout, à la campagne. Déjà, si tu conduis pas, c'est super pénalisant. Tu vois, à 21h, t'as plus de bus, c'est chaud. Hein. Et si t'es paumé, à un moment donné, bon, bah, en pleine campagne, laisse tomber, personne s'arrête. Enfin, c'est compliqué. Et puis en ville, parfois, il n'y a plus personne, quoi. Donc, paradoxalement, en tant que malvoyant, moi, je me sens vraiment très, très bien à Paris. Encore une fois, peut-être que je n'aurais jamais habité Paris autrement, mais aujourd'hui, je ne me vois pas quitter Paris ou grande ville, quoi. Tu peux tout faire.
Et comment tu fais? Parce que bon, t'as Todd qui t'aide un peu, mais comment tu apprends les routes? À un moment donné, quand tu sors du métro, tu peux pas la connaître.
Non. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce aux nouvelles technologies, on peut, en tant que malvoyant, utiliser plein de choses, notamment les ordinateurs, qui peuvent être vocalisés avec Siri, avec tous ces outils-là, les téléphones portables qui peuvent aussi être vocalisés, on peut aussi même lire le braille sur des écrans qu'on branche aux ordinateurs, donc on peut faire plein de choses. Et dans la rue, typiquement, avec mon téléphone vocalisé, qui est un téléphone ordinaire en fait, c'est un iPhone.
J'ai une appli
qui parle, et donc j'utilise Google Maps. J'utilise Google Maps, et hop, je trouve mon chemin comme ça avec Google Maps. Ça, c'est super. Avant, j'aurais pas pu lire un plan. Tu vois, à l'époque, qu'on n'a pas connu ni toi ni moi, où les gens sortaient des plans pour se repérer, ou aller lire le plan aux arrêts de bus, je sais même pas s'il y a encore des plans dans les arrêts de bus, mais tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
C'est terminé cette époque-là, et cette époque, eh ben, pour les non-voyants, elle était hyper excluante, tu vois. T'avais vraiment besoin d'aide et tout et tout. Maintenant, avec mon téléphone, mon GPS,
est-ce que c'est parce que tu distingues des éléments, que ça te permet de passer un petit peu inaperçu? Là, avec tes lunettes, on n'est pas forcément tout de suite en train de se dire « Ah, il est aveugle ».
Alors, en fait, tu as raison, il y a quand même une différence entre quelqu'un qui voit rien, plus rien du tout, ce qui n'est pas mon cas, et a priori, ça ne devrait pas bouger, donc voilà, ou quelqu'un qui, comme moi, voit un peu les lumières. Parce que quand tu es dans la rue, eh ben, j'arrive un peu à distinguer l'axe de la rue. Entre les immeubles, quand je passe le près d'une rue qui s'ouvre à droite, je vois un peu la lumière venir de la droite. Quand je rentre dans une pièce, je vois où sont les fenêtres, les entrées lumineuses, etc. Donc ça m'aide beaucoup.
Tu vas sentir la chaleur aussi, certainement.
La chaleur et tout ça. Mais après, bon, une fois que j'ai dit ça, moi je connais des non-voyants, taux complet, qui se déplacent, mais même mieux que moi, et qui n'ont pas du tout de difficultés et tout, parce qu'ils ont vachement bien accepté déjà leur situation. Tu vois, il faut être bien dans sa peau, tu vois.
Ouais.
Et ils ont eu la chance d'apprendre les outils, utiliser la canne ou avoir un chien guide. Ça, c'est super important. Et ouais, tout le monde n'a pas cette chance parce qu'on manque de formateurs en canne blanche et les chiens guides, pareil, il y en a très peu. C'est assez rare de voir des déficients visuels avec des chiens guides par rapport à la quantité de personnes malvoyantes.
Ouais, on voit des cannes.
Beaucoup plus de cannes.
Chiens...
Non, tout à fait. Il y a à peu près 1500 chiens guides en France. Les utilisateurs de la canne blanche, ça se compte probablement en dizaines de milliers, tu vois. C'est pas nouveau, hein. La canne et les chiens, ça existe depuis très longtemps. Et puis tout ça, en fait, le point de départ, c'est l'acceptation psychologique.
Toi, tu l'as toujours accepté Est-ce qu'il n'y a pas des fois où tu n'as pas voulu montrer T'as tenté de le cacher, en tout cas.
Oui, notamment quand je voyais avant 22 ans, je voyais mieux, un petit peu mieux. Donc, je pouvais me déplacer sans canne. Donc, quand tu te déplaces sans canne, sans chien, tu as le sentiment d'être moins stigmatisé. Et donc, tu peux parfois un peu, comment dire, faire semblant. C'est pas évident parce qu'en fait, tu fais semblant, mais les gens sont pas dupes, quoi. Ils voient bien que tu n'es pas en mesure de lire. Et souvent, ils comprennent pas. Il dit, mais pourquoi lui, il me demande de l'aide et tout.
Alors t'as des anecdotes ?
Oh ouais, bah plein. Quand je demandais de l'aide, sans canne, sans chien, les gens, ils ne comprenaient pas, en fait. Ils me prenaient pour un touriste. Ou Moi, je me souviens, une fois, une station de métro, je crois que c'était à côté ici. Bon, je débarquais à Paris. D'ailleurs, quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, mais comment je vais faire avec le métro ? C'est compliqué. Enfin, tu sais, on a toujours des appréhensions quand on ne connaît pas.
Ah et... surtout à Paris.
Bah, surtout à Paris. Ça n'a rien à voir avec le handicap. Ouais, avec n'importe qui, voilà. Et à un moment donné, j'avais pas de canne et tout, et puis j'osais pas demander parce que j'avais peur de me prendre des ventes. Et j'ai passé dans une station de métro 40 minutes à trouver la bonne sortie. Parce qu'il y en avait beaucoup, c'était une grande station. Puis je repartais en arrière et tout. Je me collais le nez au panneau, tu sais, pour lire. Et puis la galère pendant 40 minutes. Et donc, c'était pas du tout efficace. C'est-à-dire, qui met 40 minutes pour sortir de la station de métro ? C'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, heureusement, j'avais pas de rendez-vous derrière ou quoi, mais...
C'est parce que t'acceptais pas encore totalement ?
J'acceptais pas, et je peux te dire que le jour où j'ai plus le choix, j'ai pris ma canne blanche, donc j'ai affiché mon handicap, tu vois. Mais psychologiquement, c'est super dur. Tu sais que les gens vont te regarder différemment. Tu changes un peu de catégorie, quoi. T'es beaucoup plus visible et tout ça. Et t'as vraiment peur que les gens te considèrent comme une personne handicapée.
Comme une personne...
Ouais, voilà. Et ça, j'ai vite compris qu'en fait, c'était tout à fait psychologique. Au contraire, le fait d'avoir ma canne, ça me permettait de lever l'ambiguïté. Quand je demande de l'aide, alors que j'ai un chien avec moi ou une canne avec moi visible et tout, les gens comprennent tout de suite de quoi il s'agit. Et,
ouais.
Et en fait, c'est beaucoup mieux pour eux, c'est beaucoup plus agréable pour moi. Et assez vite, j'ai accepté, mais ça n'a pas été facile. Pendant longtemps, la canne est restée dans mon sac, pliée.
Joker, vraiment,
Oh là là, ouais, non, c'est ça, tout à fait.
C'est quand même déjà un énorme parcours. Je pense que c'est pas quelque chose qui s'accepte. Et là, ton mentor a peut-être aussi été important.
Complètement, lui et d'autres. Je me suis dit, si tu veux, si ces gars-là vivent bien leur handicap, ont des bons jobs, professionnels, personnellement, tout va bien, il n'y a pas de raison que moi aussi. Ça m'a beaucoup aidé à me projeter, à m'inspirer, c'est clair. J'ai déjà eu un peu de mal à sortir ma canne, à assumer mon handicap, à demander de l'aide. Imagine pour des personnes qui sont pas nées comme ça.
Ouais. C'est la question que j'avais, c'était l'injustice. Comment tu gères le fait que ça t'arrive à toi et pas aux autres ? Parce que c'est tellement injuste.
Je pense que déjà c'est un processus de deuil pour accepter son handicap. C'est vraiment les mêmes étapes qu'un deuil. Tu fais le deuil de ta situation. Alors moi j'ai jamais bien vu, mais tu vois ce que je veux dire. Tu dois accepter la nouvelle situation. Et une fois que ça s'est enclenché, et ça prend du temps, il faut arriver à, comment dire, au final à positiver et potentiellement aussi à prouver qu'on est capable. Donc ce que disent souvent les personnes, c'est que quand on est handicapé, au lieu des autres, tu as besoin de démontrer encore plus que t'es compétent,
tu dois faire plus,
ce qui est dur. On est déjà dans une situation où on doit compenser, si en plus il faut faire plus que les autres, et donc c'est un peu la double peine. Mais en tout cas, le fait d'avoir beaucoup investi dans mes études, du temps et tout ça, c'est sans doute pour un peu prouver que je suis capable et pour compenser un peu
te prouver situation. À toi ou prouver aux autres,
les deux. Et après, un truc important qu'il faut avoir en tête, c'est que je suis loin de représenter la majorité des déficients visuels. Parce que comme tu l'as compris, il y en a qui perdent la vue, et c'est la majorité plus tard, parce qu'un accident ou parce que la vieillesse. La plupart des personnes malvoyantes en France, c'est les personnes âgées. Mais ce que je veux te dire aussi, c'est qu'en fait, la plupart des personnes déficientes visuelles ont des grosses difficultés à faire des études, parce que des situations discriminantes, parce que forcément l'énergie pour rebondir, ou le contexte familial, voilà. Je vais même te présenter des gens qui ont des diplômes et qui n'arrivent pas à trouver du boulot. Donc en fait, voilà, juste pas pour noircir le tableau, mais juste pour relativiser le fait que ma situation, malheureusement, voilà, elle n'est pas du tout représentative.
On a notre ami Todd qui fait des 100 pas autour de nous.
Ouais,
c'est vrai. Est-ce qu'on peut expliquer où est-ce qu'on est justement ? Parce que c'est assez lié à ce que tu viens d'évoquer. On est dans un endroit qui aide ces personnes et essaie de redonner des chances un peu à tout le monde, non ?
Ouais, exactement. C'est une association qui a été créée il y a plus de 70 ans par des étudiants déficients visuels qui voulaient justement s'entraider, accéder à autre chose que les études un peu spécialisées, devenir musicien ou kiné, qui sont des très beaux métiers. Hein. Mais souvent, c'était les seules possibilités quand on était malvoyant. Donc eux, ils voulaient devenir professeurs, professeur ou devenir
choisir.
Scientifique. Déjà, choisir leur parcours et avoir le plus possible d'options de carrière. Donc c'est ça l'ADN de cette association qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Accompagner, Promouvoir, Intégrer les déficients visuels, APIDV, et qui aide aujourd'hui des étudiants, des actifs, à travers des programmes de coaching, de mentorat, donc des personnes mal et non-voyantes, dans leur parcours d'études, leur parcours de travail, de reconversion aussi parfois. Et également, l'association propose d'adapter des ouvrages, que ce soit en braille, en audio, des revues, pour permettre d'accéder à l'information, au savoir. On estime que seulement 7% des livres, toute la production littéraire, est accessible aux déficients visuels. Donc, tu vois, il y a encore un fossé pour que l'accès au savoir, la connaissance soit pleinement... Voilà l'ADN de cette association dont je suis vice-président depuis quelques années.
Une de tes casquettes.
Une de mes casquettes, voilà.
T'étais plutôt, on va dire, calme et sur la réserve quand t'étais plus jeune. Et d'un seul coup, en fait, tu te révèles. Bah, en fait, c'est presque de l'hyper-engagement parce que t'es dans plusieurs associations. On y reviendra plus tard, mais là, t'envisages de te lancer dans l'entrepreneuriat.
Ouais.
T'as ton club cigare.
Je sais pas
si j'ai le droit de l'évoquer.
Si, si, j'ai un club cigare. J'ai deux autres clubs, des rencontres avec des personnalités, etc. C'est pas moi qui ai tout créé, hein, mais je participe à différentes...
T'es hyper actif, là, à ce niveau-là.
Oui, alors, je me dis que j'ai toujours été assez sociable. C'est juste que le contexte a fait que j'ai pas eu l'occasion, tu vois, de me révéler plus tôt. J'ai toujours aimé parler. Tu vois, à un moment donné, j'ai hésité à devenir journaliste. Journaliste, j'aime beaucoup poser des questions, je suis assez curieux, j'aime bien écouter les gens. Donc je crois que j'ai toujours été assez sociable, mais c'est vrai que ça s'est vraiment révélé que vers 18-20 ans, à partir de l'école de commerce, on va dire.
Et c'est quoi ton prochain projet là ?
Donc comme tu le disais un peu tout à l'heure, je souhaite travailler de manière indépendante maintenant, donc des projets de création d'entreprise, création d'activité, pour une part en tant que consultant indépendant, et le reste de mon activité, je souhaite développer une activité d'événementiel, de production d'événementiel à impact, et de contenu audiovisuel à impact, avec des amis réalisateurs ou producteurs.
Alors pour revenir sur le fait que le handicap ne soit pas du tout un sujet, tu me disais j'adore les déménagements.
Oui.
Le symbole du truc qui semble assez incompatible avec... Enfin, mettre des éléments dans des boîtes, retrouver, ranger, prendre des cartons qui ne sont pas là habituellement.
C'est que moi, je pense que je suis un petit peu frustré de ne pas faire plus d'activités physiques. Alors, je fais du sport un petit peu, je marche beaucoup. Mais j'aime beaucoup les choses très concrètes. Tu vois, bouger des meubles, porter des trucs dans les escaliers, ça, j'adore. Donc, j'adore les déménagements. Et peut-être aussi que, tu vois, à la fin de la journée... Déjà, t'as un peu une fatigue physique, des courbatures, ça, je me dis, t'as le sentiment d'avoir fait un truc, quoi. Et donc, je crois que c'est ce qui me plaît dans les déménagements, ça. Il y a un truc très concret, très physique, et puis souvent, ça rend service aux gens, donc. Et puis souvent, un déménagement, ça se termine par une petite bière. C'est aussi ça, la conclusion du déménagement.
Est-ce que, du coup, t'as un mot de la fin ? Est-ce que toi, tu veux ajouter quelque chose ?
Je te remercie de ton interview, du podcast, et puis bonne chance à toi pour tes prochains projets, et puis les podcasts suivants, j'espère.
Merci, Thibaut. Et puis, si on a envie de s'investir dans tes associations, je mettrai le lien en dessous.
Ah ouais, super.
Pour que tout le monde puisse aider s'il le souhaite, puisque c'est complètement ouvert aux voyants. Okay.
C'est intéressant ce que tu poses comme question, parce que ça me fait réfléchir à des choses que... Je n'avais pas réalisé, tu vois.
Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast d'Histoire de famille. Si vous aussi vous souhaitez participer ou si vous souhaitez en savoir plus sur le podcast et les prochains épisodes, rendez-vous sur Instagram en tapant histoiredefamille.podcast. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, c'est la meilleure façon de m'aider et de m'encourager. À bientôt.